VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 21 novembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Mali, scrutin municipal hier. Première consultation depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013.
Au Sénégal, au moins 16 morts et près de 600 blessés dans des accidents sur la route du grand pèlerinage annuel de la confrérie Mouride à Touba.
À Damas, le chef de la diplomatie syrienne rejette une proposition de Staffan de Mistura, émissaire de l'ONU, concernant Alep.
En France, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été éliminé de la campagne pour la primaire de la droite française.
Ici, aux États-Unis, le président élu Donald Trump laisse entendre que de nouvelles nominations à son gouvernement sont imminentes.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, prévu pour se tenir dans 688 communes, la communale d'hier n'a pas pu se tenir dans une vingtaine de nouvelles communes à cause de l'insécurité et de la mise à exécution de certaines menaces des bandits armés. Un candidat est décédé à Nara, un autre a été porté disparu dans la région de Mopti, alors qu'il y a eu des manifestations à Kidal contre la tenue du scrutin. Kassim Traoré revient sur certains incidents majeurs de cette communale au Mali.
Pour la communale de 2016 au Mali, le sang a coulé. Il y a eu au moins 4 morts et une personne portée disparue. La tête de liste de l'ADEMA de Nara, traumatisée par des bandits armés, est décédée sous le coup de la paire. À Douanza, des hommes armés ont tué un candidat PSP, tout comme l'ami d'un député de l'URD dans la même localité. Des bandits sur moto ont ouvert le feu sur les participants d'une réunion qui se trouvait chez le maire de Djangourou, dans le cercle de Koro, région de Mopti. Cette attaque a occasionné la mort d'un jeune homme par balle. Deux autres personnes ont été blessées. À la veille du scrutin, le 19 novembre 2016, dans la commune de Djungani, région de Mopti, toujours dans le même cercle de Koro, la tête de liste du parti PRVM a été enlevée vers 6h du matin. Saïdou Bari, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sa voiture a été retrouvée brûlée par des hommes armés qui l'ont conduit vers une destination inconnue. Toute la journée électorale du 20 novembre a été émaillée de coups de feu dans les régions de Mopti, Tombouctou et Gao. Conséquence, le vote n'a pu se dérouler dans une vingtaine de communes où des hommes armés ont brûlé les matériels électoraux, menacé des candidats et des organisateurs du scrutin. À Kidal, où le vote n'était même pas prévu, il y a eu une manifestation au cours de laquelle ils ont brûlé le drapeau du Mali pour dire non à l'organisation de la communale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Sénégal, au moins 16 personnes ont été tuées et près de 600 blessées dans des accidents sur la route du grand pèlerinage annuel de la confrérie Mouride à Touba, dans le centre du pays. Des millions de pèlerins ont commencé à prendre le chemin du retour dimanche, au lendemain du Magal. Les incidents sur les routes en direction de Touba ont fait en une semaine 16 morts et 572 blessés, a annoncé le lieutenant-colonel Moussa Niang, porte-parole de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, cité par l'agence de presse sénégalaise et la radio privée RFM. L'an dernier, le bilan avait été d'une quinzaine de morts.
Un sommet Afrique-Monde Arabe, le quatrième du genre, se tiendra mercredi à Malabo en présence de plusieurs chefs d'État africains sur le thème « Développement durable et coopération économique entre ces deux régions du monde ». Les pays arabes sont des pays riches, ils peuvent contribuer au développement des pays africains sans aucune forme d'ingérence et sans se comporter comme les pays développés, nos anciens pays colonisateurs, a déclaré le président équato-guinéen Teodoro Obiang vendredi dans des propos rapportés par la télévision Africa 24.
Au moins 21 personnes ont été tuées, une centaine d'autres blessées en 4 jours de combat entre deux tribus rivales dans la ville de Seba, dans le sud de la Libye. Les affrontements opposent la tribu des Aoulé de Souleymane à celle des Gedatfa, à laquelle appartenait l'ancien dictateur déchu Muammar al-Kadhafi. Le bilan de 21 morts et d'une centaine de blessés concerne seulement les membres de la tribu Ali de Suleiman, a indiqué un des responsables du centre médical de Seba. Il n'était pas possible dans l'immédiat d'obtenir le bilan des victimes des Gedatfa qui sont traitées dans un autre hôpital.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, Staffan de Mistura, émissaire de l'ONU, est retourné hier à Damas pour tenter d'obtenir une cessation des hostilités à Alep, deuxième ville du pays. Mais le régime syrien est resté inflexible, le point avec Idriss Fall.
Staffan de Mistura a demandé hier à Damas un arrêt des combats meurtriers à Alep. Walid Mualem, chef de la diplomatie syrienne, a rejeté sa proposition de maintenir une administration autonome des rebelles sur l'est d'Alep. La proposition onusienne préconisait l'arrêt des bombardements des deux côtés, le départ des djihadistes du front Fatah al-Sham, ancienne branche d'Al-Qaïda. Le déluge de feu qui s'est abattu sur Alep Est a fait au moins 107 morts depuis mardi. En représailles, les rebelles ont tiré sur une école primaire, tuant au moins 8 enfants à Alep Ouest, contrôlés par le régime. De violents combats de rue ont eu lieu dans les zones rebelles où les forces du régime tentent d'avancer. L'émissaire onusien est donc engagé dans une course contre la montre car Damas et Moscou veulent reconquérir la partie est d'Alep avant la prise de fonction de Donald Trump à la présidence américaine le 20 janvier prochain.
En France, après la défaite cuisante de l'ex-président Nicolas Sarkozy, la campagne pour la primaire de la droite française, qui vise à désigner son candidat pour la présidentielle de 2017, reprend aujourd'hui avec un duel entre deux ex-premiers ministres. François Fillon, premier ministre durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy 2007-2012, a été plébiscité au premier tour de la primaire avec plus de 44% des suffrages et fait désormais figure de favori. Au second tour dimanche, il affrontera Alain Juppé, 28,6% des voix, lui aussi ancien premier ministre de 1995 à 1997 sous la présidence de Jacques Chirac. Mais celui-ci aura du mal à rattraper son retard.
Donald Trump, le président élu des États-Unis, est de retour depuis hier soir à Trump Tower, son appartement à New York, après un week-end de consultation dans sa propriété de Bedminster dans le New Jersey. Il a laissé entendre que de nouvelles nominations étaient imminentes, en précisant qu'il avait déjà passé un ou deux accords avec certains candidats. En attendant, l'entourage de Donald Trump s'est lui efforcé de défendre certaines des nominations déjà annoncées, comme celle de Michael Flynn au poste de conseiller à la sécurité nationale. Michael Flynn qui a écrit en février sur Twitter que la peur des musulmans est rationnelle.
En Allemagne, Angela Merkel a officialisé hier soir sa candidature en quatrième mandat de chancelière en 2017, tout en prévenant que les prochaines élections seront difficiles. À Berlin, la chancelière a estimé que l'élection législative allemande prévue en septembre ou octobre 2017 serait la plus difficile depuis la réunification en 1990. La droite allemande a connu une progression fulgurante lors des scrutins régionaux cette année à cause des craintes suscitées par l'arrivée d'un million de réfugiés syriens.
En Haïti, quelques 6,2 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes hier pour élire leur futur président, des députés et des sénateurs, et ce après une année de crise institutionnelle. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Il y a 27 candidats à la présidence, 25 postes de députés sur 109 sont à pourvoir et 16 sénateurs sur les 30 que compte la Chambre haute. Ces scrutins avaient été organisés en octobre 2015, mais à la suite de violentes contestations, les autorités avaient annulé ces élections et repris le processus à zéro. Le premier tour de la présidentielle programmé le 9 octobre a été encore reporté en raison du passage dévastateur de l'ouragan Matthew le 4 octobre. Tous les ports d'armes ont été suspendus, aucun véhicule ne pouvait s'approcher des bureaux de vote. Plus de 9 400 policiers ont été mobilisés pour sécuriser le vote, secondés par 1 400 policiers de la mission de l'ONU en Haïti. Les résultats officiels du premier tour doivent être rendus publics le 29 décembre. Si aucun candidat à la présidence n'obtient plus de 50% des suffrages. Un second tour est prévu le 29 janvier 2017.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement a accordé un financement de plus de 147 millions de dollars au projet de renforcement des réseaux de transport et de distribution d'électricité en Côte d'Ivoire. Ce projet s'inscrit dans le programme national d'investissement pour le secteur de l'énergie, ciblant notamment l'électrification de toutes les localités de plus de 500 habitants d'ici 2020. Le gouvernement camerounais propose de réduire à 25% l'impôt sur le bénéfice pour les sociétés qui émettront des titres sur le marché obligataire du Douala Stock Exchange. Cette incitation fiscale devrait être valable pour une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2017, selon Ecofin, citant le projet de loi des finances qui sera soumis pour validation aux députés et sénateurs. Et dans le cadre des efforts pour mettre fin aux flux financiers illicites sur le continent, la Commission économique pour l'Afrique ouvre ce lundi à Nairobi un atelier de 2 jours visant à établir un plan de travail pour le consortium des parties prenantes.
À présent, les sports avec Élisée Oumpatine. Bonjour.
Bonjour Idrissa.
Honneur aux dames ce matin avec la CAN féminine de football. Le Cameroun à domicile est bien entré dans sa compétition.
Victoire des Lions dans un notable 2-0 face à l'Égypte. Elle s'empare de la première place du groupe A devant l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, auteur d'un match nul 0-0. Les Camerounaises peuvent déjà se qualifier pour les demi-finales aujourd'hui si elles venaient à battre l'Afrique du Sud. L'autre rencontre mettra aux prises le Zimbabwe à l'Égypte. Hier, dans la poule B, le Nigeria a frappé fort pour son entrée. Les Super Falcons ont corrigé les Maliennes 6-0. Les Nigeria sont leaders avec le Ghana, vainqueur du Kenya 3-1.
Football féminin toujours et mondial junior en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le Nigeria éliminé.
Oui, malgré sa victoire de 2-1 devant l'Espagne, le Nigeria voit son aventure s'arrêter au premier tour. Les Nigérians battus par le Japon 6-0 pour leur premier match totalisent le même nombre de points que les Japonaises et les Espagnols 6 points et terminent donc 3e. La faute aux Japonaises, d'ailleurs vainqueurs hier 5-0 du Canada.
Élisée, on fait le point sur quelques championnats africains.
Oui, et première journée en Côte d'Ivoire. Début raté pour le champion en titre, la Standard, battu par le WAC 3-1. Mais la bonne opération est pour la SEC d'Abidjan, vainqueur de Dengele d'Odiené 4-1. Les Mimos prennent la première place. 2 matchs aujourd'hui pour clôturer cette première journée. Afad joue JCAT et l'Africa Sport reçoit le FC San Pedro. En République démocratique du Congo, la phase retour a démarré ce week-end. Dans la zone ouest, le Daring Club Motiba Pembe, vainqueur de MK 3-0, partage la première place avec le FC Renaissance 22 points chacun. La SV Club est classée 3e. Au centre sud, le leader, le tout-puissant Mazembe de Lumbashi, a eu raison du groupe Bazano 2-0. Son dauphin Sanga Balende a été accroché à domicile par Lumumbashi Sport 0-0. Et puis à l'est, Dauphin Noir conforte sa première place. Succès 1-0 face à Makiso, 2e au classement. Bukavu Dawa a réalisé le service minimum devant Nkoyi Bilondé.
Direction l'Égypte, Al Ahly prend la tête du championnat à l'issue de la 9e journée.
Effectivement, Idrissa, le national du Caire a dominé en déplacement Al Harbi 2-0 et prend seul la première place avec 23 points devant Al Makassa. Zamalek est 6e avec seulement 13 points. 7e journée en Tunisie. Dans le groupe A, le club sportif sassien toujours leader suite à sa victoire 1-0 face au CA Bizertin. Dans la poule B, l'Espérance de Tunis renoue avec la victoire. Les Sang et Or ont battu Metlaoui 1-0 et reste 2e derrière le club africain. Et puis 12e journée en Algérie et l'USM Alger prend seul la première place avec 23 points. Le club désormais entraîné par le Belge Paul Puit doit cette performance suite à sa victoire de 2-1 devant Naoussende.
Cyclisme avec le dénouement du Tour du Rwanda.
Le dernier épisode, c'était hier, un circuit fermé de 108 km dans les rues de la capitale Kigali, remporté par l'Érythréen Tesfom Okubabariam. Mais le grand vainqueur de cette édition, sans surprise, le Rwandais Valens Ndaisinga. Et puis avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Atlanta, New York Knicks, 94-104. Portland, Brooklyn Nets 129-109, Indiana, Oklahoma City 114-111.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idriss Assédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Maliens ont voté hier pour le scrutin municipal, première consultation depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en 2013, avec une participation qui s'annonçait faible en raison notamment de l'instabilité persistante dans un pays sous état d'urgence. Le déroulement du scrutin à Bamako avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Entre difficultés d'ordre matériel et la mauvaise organisation du scrutin, les Bamakois se sont débrouillés pour glisser leur bulletin dans l'urne afin d'accomplir leur devoir civique.
Je me nomme Drissa Traoré, je suis venu pour voter. Bon, de façon générale, ce que j'ai constaté quand même, moi je pense que je vois que les choses se passent normalement dans un climat apaisé quand même jusqu'ici. Mais seulement il y a des personnes qui ne savent même pas à quel bureau ils doivent aller voter. Normalement, je pense qu'il y a une équipe qui est mise en place la prise en charge de ces personnes-là. Je ne vois pas assez de motivation comme les élections passées.
La mobilisation et les affluences étaient variables d'un centre de vote à un autre, mais partout, les femmes étaient les plus mobilisées, tant dans l'organisation ou comme électrices.
Je me présente au nom de Awa Koulibaly, je présente du bureau numéro 3. Quand même, pour moi, ça se passe très bien. Depuis le matin, nous sommes là, nous sommes en train de travailler. Je suis là, je travaille, les gens me respectent, donc il est trop facile de travailler en se respectant et en respectant les gens aussi.
Je me nomme Assitan Sanogo, délégué de la CENI. On n'a rien constaté. Les gens ne viennent pas, il n'y a pas de votants. La mobilisation n'est pas pu motiver les gens, quoi. C'est ça que j'ai constaté. Il n'y a pas de maire ici. Il ne veut pas de maire.
De plus en plus, les Maliens ne sortent plus massivement pour voter. Cela a des raisons qui peuvent être corrigées si tous les acteurs du processus électoral se donnaient la main.
Je m'appelle Michel Diakhar Diamakounou. Je suis enseignant à l'école Sansoumeya. Alors, les électeurs viennent pas tellement rigoureux, doucement. Il y a la transparence, tout se passe très bien. L'affluence n'est pas aussi grande. Si je dis le gouvernement n'a pas joué son rôle, c'est trop dit. Alors, quel est l'intérêt du vote au Mali? C'est que beaucoup de nos populations ignorent. Donc, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Il faut une sensibilisation globale pour que les gens comprennent quel est l'intérêt même du vote.
Dans son quartier de Sébenikro, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a accompli son devoir civique dans le bureau numéro 1.
Ces communales étaient tellement attendues. Enfin, elles sont là. C'est la démocratie, encore une fois, en marche. Quand on y souscrit, il faut en accepter toutes les règles. À 4 reprises, nous avons reporté ces élections communales pour les rendre les plus inclusives possibles. Il n'y avait rien d'autre derrière. Nous pensons que 4 fois, ça suffit. Maintenant, il faut y aller. Et tout le pays, pendant le temps qu'il a fallu, conformément à notre code électoral, a fait campagne. Maintenant, il s'agit de faire le choix, pourvu que les populations sachent choisir ceux-là qui vont, ou celles-là qui, en leur nom, vont gérer la commune.
L'organisation du scrutin du 20 novembre répond à plusieurs préoccupations selon les autorités maliennes, qui d'ailleurs se réjouissent de la bonne organisation, même si il a été émaillé par quelques incidents. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Inciter les jeunes Togolais à postuler aux différents programmes d'échange américains et réveiller en eux la flamme de l'engagement citoyen, tels sont les objectifs poursuivis par le Global Alumni Association of Togo, GAT, en initiant la semaine du GAT. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Du 14 au 19 novembre s'est tenue la semaine du GAT des Global Alumni Association of Togo. Les anciens bénéficiaires des programmes et bourses américains ont voulu mettre en application les notions d'engagement citoyen apprises lors de leur séjour aux États-Unis. Pour ce faire, le GAT a offert une bibliothèque à la brigade pour mineurs de Lomé. Idrissou Akibou, directeur de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale.
Nous connaissons un peu l'intérêt d'une bibliothèque. Avec une bibliothèque, on s'éduque. Avec une bibliothèque, on apprend de bonnes choses. On arrive à voir ce qui se passe ailleurs que dans son milieu. C'est très important pour les mineurs de pouvoir s'éduquer à travers les livres.
À l'agenda de cette semaine du GAT, une formation sur le leadership et l'entrepreneuriat couplet d'un Youth Tech Camp. Nous écoutons ses participants.
Il faut être capable de conduire un groupe, il faut être un leader pour un groupe, il faut être capable d'influencer l'environnement dans lequel nous vivons. C'est ce que moi j'ai pu retenir sur le leadership.
On a parlé également de la e-reputation, c'est-à-dire comment avoir une bonne réputation sur le web, sur Internet, et aussi avoir une très bonne sécurité.
La représentation des États-Unis au Togo a saisi l'occasion pour inciter les jeunes Togolais à soumissionner aux différents programmes et bourses. Mike Pryor, directeur de la section Affaires publiques.
C'est un programme qui vise à encourager les gens à postuler pour nos programmes d'échange. C'est une opportunité d'encourager les gens de faire des activités qui vont améliorer les conditions dans leur communauté, promouvoir le développement durable, l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses.
C'est par cette activité communautaire sur le campus universitaire de Lomé qu'a pris fin la semaine du GATT au Togo. Une semaine au cours de laquelle les membres du GATT ont su transmettre des valeurs citoyennes aux jeunes Togolais et susciter en eux une prise de conscience afin qu'ils puissent saisir toutes les opportunités qui se présenteront à eux à l'avenir. Kyle Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Au Burkina Faso, une épidémie de dengue sévit actuellement dans le pays où le nombre de décès se chiffre à 15 selon un bilan du ministère de la Santé. Et comme les signes de la dengue ressemblent à ceux du paludisme qui est endémique au Faso, les victimes de la dengue ont tendance à penser d'abord au palu, nous dit Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
Depuis le 17 octobre 2016, le ministère de la Santé a été alerté par une augmentation assez sensible donc du nombre de personnes qui présentaient des syndromes qui étaient similaires à ce qui ferait penser donc à la dengue. Malheureusement, le virus circule au Burkina Faso.
De cette annonce faite par le ministre de la Santé, la direction de la lutte contre la maladie a donné les détails chiffrés. On écoute le docteur Brice Bikaba.
En date du 13, nous avions 1266 cas de suspects qui avaient été notifiés, et dont 1061 cas probables qui ont été donc confirmés par les tests de diagnostic rapide et nous avions notifié 15 décès au total.
Faire son palu était presque une habitude au Faso, mais avec la dengue, il y a comme une sorte de peur panique, suivant Ousmane Kaboury.
Le paludisme cette année-là, c'est le palu qu'on appelle palu dengue. Ça tue vraiment et ça ne pardonne pas. Il y a femme d'un ami, avant de faire savoir que c'est un palu dengue, elle est déjà décédée.
Ladji Bama, journaliste, a lui eu plus de chance après avoir été infecté par la dengue, suivant son expérience douloureuse.
C'est au palu que j'ai pensé quand j'ai commencé à sentir la fièvre et puis le maux de tête. Faut dire que c'est une maladie qui est vraiment très très douloureuse. C'est des douleurs très vives à la tête et des douleurs aussi vives au niveau des muscles. Et puis aussi la fièvre vraiment qui fait peur. Hein, parce que là, quand j'étais couché, malgré le fait qu'on m'avait enveloppé avec un linge mouillé, c'était vraiment très élevé, la fièvre. Ça m'a coûté quand même la peau de la fesse, hein, parce que les examens d'abord, c'est très coûteux. Je n'ai pas les chiffres, mais quand j'essaie de faire une petite sommation, ça fait quand même une bonne fortune que j'ai laissée dans ça.
Avec la similitude des symptômes entre la dengue et le paludisme, les Burkinabés ont créé un néologisme, le paludengue. Le directeur de la lutte contre la maladie, le docteur Brice Bikaba, explique.
Il n'y a pas de paludengue. La dengue a une symptomatologie qui ressemble beaucoup à celle du paludisme. Et c'est certainement donc la similitude des signes qui fait que les gens le confondent à la dengue, mais ce n'est pas la même maladie. La dengue est transmise effectivement aussi par un moustique, mais elle est causée par un virus. Ce qui n'est pas le cas pour le paludisme, qui est également transmis par un moustique, mais qui est causé par un parasite. Le moustique qui cause le paludisme est différent, c'est l'anophèle, il est différent de celui donc de la dengue, qui est donc l'Aedes, qui se nourrit surtout le jour, alors que l'anophèle se nourrit surtout la nuit.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Au Burundi, la mairie de Bujumbura, la capitale, met en garde les jeunes contre les dangers du diabète et les sensibilise en les appelant à s'adonner en sport, à avoir un régime alimentaire équilibré qui inclut des légumes et surtout à ne pas consommer des boissons alcoolisées. Reportage de notre correspondant sur place, Christophe Korunziza.
Sur le terrain de football de Buyenzi, des jeunes des quartiers Biza et Buyenzi jouent un match de football pour montrer que les jeunes doivent combattre le diabète par le sport et avoir un comportement responsable. À quelques mètres du terrain se trouve un institut médical où les habitants sont appelés à faire un dépistage volontaire. Sur les 460 personnes ayant fait le dépistage, 30 personnes avaient le diabète le jour de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Cet homme, la cinquantaine, a le diabète depuis de nombreuses années. Il affirme qu'avec de la discipline, les malades peuvent stabiliser le diabète.
Et je crois que la première chose, c'est d'abord de suivre les indications des médecins traitants parce qu'ils vous guident surtout dans votre alimentation et surtout en vous conseillant de faire du sport très souvent et éviter de boire de l'alcool.
Innocent Nkurunziza est le médecin directeur du programme national contre les maladies chroniques non transmissibles. Il reconnaît que le diabète est une menace contre la population au Burundi.
Évidemment, le diabète est une menace pour surtout toutes les couches de la population du Burundi. On n'a pas de chiffres au niveau national, mais on a fait quelques études au niveau des différentes provinces et nous avons une prévalence qui varie entre 5 et 20% selon les critères.
L'Organisation mondiale pour la santé, OMS, indique qu'une personne meurt toutes les 6 secondes au monde, mais docteur Jérôme Ndaruhutse, qui assure les affaires courantes du bureau de l'OMS au Burundi, indique qu'il existe un partenariat OMS-gouvernement burundais depuis belle lurette.
Ce que nous sommes en train de faire, nous l'avons toujours fait, nous appuyons les États à mettre en place les politiques, les stratégies de lutte contre le diabète. Et dernièrement même, nous avons appuyé la rédaction des directives nationales de lutte contre le diabète. C'est une menace parce que les facteurs de risque sont là.
Le gouvernement burundais appelle la jeunesse à ne pas s'adonner à l'alcool comme le demande Tamar Ndaruhutse, conseillère du maire de la ville de Bujumbura chargée des questions socioculturelles.
Je lance un appel vibrant aux jeunes de la mairie de Bujumbura, disait toujours le support et de laisser la paresse et d'abandonner catégoriquement l'alcoolisme.
Le responsable du centre de lutte contre le diabète au Burundi reconnaît que cette maladie est en pleine expansion car il remarque chaque jour un nouveau cas de diabète au Burundi alors que le budget national à lui seul ne peut pas vaincre cette maladie. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Salut les amis, ici Roger Muntu sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-31-40, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-37-31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
« Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.